Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. D'après vous, quel est le plus grand miracle, le miracle le plus prodigieux qui puisse être accompli? Lors de son premier avènement, Christ accomplit de nombreux miracles, dont une trentaine de miracles précis, seulement un échantillon, mentionné dans les Écritures. Son premier miracle fut de changer de l'eau en vin. Jean, chapitre 2, verset 1. Jean, chapitre 2 et le verset 1. Il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin !» Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quels autres miracles sont mentionnés dans la Bible? Concentrons-nous sur les versets décrivant ces miracles. Jésus accomplit ensuite de nombreux miracles comme la délivrance d'un démoniaque. Marc chapitre 1, verset 21. Marc chapitre 1 et le verset 21. Marc 1, 21. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Jésus guérit le fils d'un officier du roi. Jean chapitre 4, verset 46. Jean chapitre 4 et le verset 46. Jean 4, 46, il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était prêt de mourir. C'était donc une maladie très grave. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils meure, ou que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Jésus guérit un infirme à Bethesda. Jean chapitre 5, verset 1. Jean chapitre 5 et le verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Jésus guérit un lépreux. Matthieu chapitre 8, verset 1. Matthieu chapitre 8 et le verset 1. Matthieu 8, 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus provoqua une pêche miraculeuse. Luc chapitre 5, verset 1. Luc chapitre 5 et le verset 1. Luc 5, 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une quantité de poissons, et leur filet se rompait. Jésus guérit le serviteur d'un centurion. Luc chapitre 7, verset 1. Luc chapitre 7, verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Jésus étant allé avec eux, était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Jésus ressuscita le fils d'une veuve, Anna. Luc chapitre 7, verset 11. Luc chapitre 7 et le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Matthieu chapitre 8, verset 14. Matthieu 8, 14. « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre, ce qui prouve que Pierre avait une femme, il était marié, sinon il n'aurait pas eu de belle-mère. Mais sa belle-mère était couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Jésus apaisa une forte tempête. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4 et le verset 35. Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Jésus délivra un démoniaque gadarénien. Marc chapitre 5, verset 1. Marc chapitre 5 et le verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas !» Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur !» Verset 15. Il vint auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, il y avait donc beaucoup de démons dans cet homme, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Jésus guérit un paralytique. Marc chapitre 2, verset 1. Ces passages sont très proches les uns des autres, pas beaucoup de pages à tourner. Marc chapitre 2 et le verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison. Intéressant, il était à la maison, il habitait dans une maison. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil !» Jésus ressuscita la fille de Jaïrus. Luc chapitre 8, verset 40. Luc chapitre 8 et le verset 40. À ce stade, vous devez vous demander, mais où est-ce qu'il va avec tout ça? Patientez. Luc chapitre 8, verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Verset 49, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître !» Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas. Crois seulement. Elle sera sauvée. Verset 54. Il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, il se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Voilà des miracles bien spectaculaires, n'est-ce pas? Jésus guérit une femme ayant une perte de sang. Luc chapitre 8, verset 41. Il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Cet autre miracle a lieu à peu près à la même époque, au même moment que ce que nous venons de lire. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait, pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi, le Saint-Esprit évidemment. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guéri, à l'instant. Jésus délivra un démoniaque muet. Matthieu chapitre 9, verset 32. Matthieu chapitre 9 et le verset 32. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Jésus guérit un homme ayant une main paralysée. Marc chapitre 3, verset 1. Marc chapitre 3 et le verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Verset 3. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Verset 5. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit sa main. Et sa main fut guérie. Jésus délivra un démoniaque aveugle et muet. Matthieu chapitre 12, verset 22. Matthieu chapitre 12 et le verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Quelle délivrance extraordinaire! Jésus nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Marc chapitre 6, verset 30. Marc chapitre 6 et le verset 30. Est-ce que nous apprécions tous ces miracles, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a accompli? C'est quand la dernière fois que vous avez étudié tous ces miracles? Je pensais qu'aujourd'hui, ça serait bien de les étudier ensemble. Marc chapitre 6, verset 30. Mais il y a autre chose. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Rappelez-vous, il les avait envoyés. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants. » Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Verset 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Tous ceux qui avaient mangé, verset 44, maintenant, tous ceux qui avaient mangé les pains étaient 5 000 hommes. 5 000 hommes, alors la question juste des hommes, mais il y avait des femmes et des enfants aussi. Matthieu 14, 21 ajoute, sans les femmes et les enfants. Donc, dans l'autre version, celle de Matthieu, il est aussi mentionné qu'il y avait donc 5 000 hommes plus les femmes et les enfants. Donc, apparemment, une foule encore plus considérable. Jésus guérit une femme courbée. Luc chapitre 13, verset 10. Luc chapitre 13. C'est une bonne chose que nous revoyons ces miracles de Jésus, les uns après les autres. C'est rare que nous le faisons tous ensemble, n'est-ce pas? Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus guérit un homme hydropique. Luc chapitre 14, verset 1. Luc chapitre 14 et le verset 1. Luc 14, 1. Jésus est entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Jésus guérit la fille d'une cananéenne. Marc chapitre 7, verset 24. Marc chapitre 7 et le verset 24. Marc 7, 24, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Verset 30, « Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. » Jésus guérit un sourd. Marc chapitre 7, verset 31, juste après. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, il mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus nourrit à nouveau beaucoup d'hommes et de femmes. Cette fois-ci, 4 000 hommes, nous dit la Bible, puis des femmes et des enfants. Marc chapitre 8, verset 1. Marc chapitre 8 et le verset 1. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. » Verset 6. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Jésus ressuscita Lazare. Jean chapitre 11 et le verset 1. Jean chapitre 11 et verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Verset 43. Il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Que de miracles! Que de choses extraordinaires qu'accomplit Jésus! Jésus délivra un enfant démoniaque, sourd, muet et suicidaire. Marc chapitre 9, verset 17, Marc, chapitre 9, et le verset 17. Marc 9, 17, et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. » Verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus !» Il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Jésus guérit 2 aveugles. Matthieu chapitre 20, verset 29. Matthieu chapitre 20 et le verset 29. Matthieu 20, 29, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Jésus maudit le figuier. Matthieu, chapitre 21, verset 18. Matthieu 21. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi !» Et à l'instant, le figuier sécha. Incroyable, prodigieux. Jésus guérit 10 lépreux. Luc chapitre 17, verset 11. Luc chapitre 17 et le verset 11. Luc 17, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Jésus guérit l'oreille coupée du serviteur du souverain sacrificateur. Luc chapitre 22, verset 47. Luc 22, 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Verset 50. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus provoqua une seconde pêche miraculeuse. Jean chapitre 21, verset 1. Jean chapitre 21 et le verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Verset 3, ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Verset 6, il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Tous ces miracles étaient fort impressionnants, n'est-ce pas? Du moins pour les êtres humains qui en étaient les bénéficiaires et ceux qui les voyaient. Mais ils étaient loin d'être les seuls. Comme Jean l'a écrit dans Jean chapitre 21 et le verset 25, reportons-nous à Jean 21 et le verset 25. Nous étions dans Jean 21, c'est tout proche. Verset 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. La plupart des miracles qu'il accomplissait étaient des guérisons, ce qui prouve son immense compassion. Je n'ai cité que 30 récits. Ceux mentionnés dans les Écritures, impliquant parfois plusieurs guérisons en même temps. Les Écritures nous parlent d'au moins 25 guérisons précises. Mais ce n'étaient pas les seuls. Je n'ai cité que 5 exorcismes et 3 résurrections. Mais on peut lire ceci dans Matthieu chapitre 4 et le verset 23, ou les versets 23 et 24. Matthieu 4, 23. Matthieu 4, versets 23 et 24. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. C'est d'imaginer le nombre de personnes, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. L'indication ici, il les guérissait tous. Il semble donc que les Écritures ne nous donnent en quelque sorte que quelques exemples seulement. Quand Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon, beaucoup de gens vinrent à lui pour être guéris. Il est écrit ce qui suit. Luc chapitre 6 et le verset 18. Luc chapitre 6 et le verset 18. Luc 6, 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. À nouveau, essayez d'imaginer le nombre de personnes qui étaient impliquées dans toutes ces guérisons. Dans Matthieu chapitre 14, verset 8, on peut lire ceci. Après que Christ ait guéri la belle-mère de Pierre, comme nous l'avons vu il y a quelques instants. Matthieu chapitre 14 et le verset 8. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Dans le passage parallèle, dans Marc 1, 34, je ne m'y reporterai pas, mais dans Marc 1, 34, on peut lire ceci. Marc 1, 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne leur permettait pas, il permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Marc 16, 9 précise qu'il chassa 7 démons de Marie de Magdala. Dans tous ces récits, on s'aperçoit que parmi les miracles que Jésus accomplissait, il y avait beaucoup de guérisons. Et en fait, il chassait les esprits impurs. Quand il chassait les esprits impurs, les démons, c'était aussi des guérisons, aussi bien physiques que mentales, voire même spirituelles. Et l'on peut dire la même chose pour les personnes qu'il ressuscita, car peut-il y avoir une guérison physique plus spectaculaire qu'une résurrection physique? La lecture des miracles qu'accomplissait Christ nous révèle le profond respect qu'il avait pour toute vie humaine, mais aussi et surtout son amour, sa compassion, sa miséricorde, évidemment son incroyable puissance. Mais que devons-nous en tirer? Que devons-nous tirer à la lecture de tous ces miracles que Christ accomplit? Quelles sont les leçons que nous pouvons apprendre? Je vous ai donné en quelque sorte un peu un catalogue aujourd'hui. C'est rare que nous voyons tous ces miracles ensemble. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Ces miracles sont fort impressionnants. Mais quel est selon vous le plus prodigieux de tous les miracles? N'est-ce pas celui consistant à faire des dieux d'êtres humains mortels, faillibles et pécheurs? C'est ce que notre Père Céleste accomplit à présent en nous, formant en nous son caractère saint, nous créant à son image. Comment réagissaient les gens du temps de Jésus quand Christ accomplissait des miracles? Généralement positivement, du moins les foules. Quant aux dirigeants religieux, leur réaction était généralement très hostile. Mais vous, qu'en est-il de vous? Vous et moi, vu la longueur des listes de personnes affligées, éprouvées pour lesquelles nous prions, des personnes éprouvées, souffrantes aussi bien physiquement que mentalement, nous prions souvent pour des miracles physiques, qui se produisent encore assez souvent, mais pas autant que nous le voudrions, n'est-ce pas? Car Dieu a un plan pour chacun de nous. Souvent, nous voudrions que ces personnes pour qui nous prions soient guéries, comme ces miracles que nous regardons, dont nous prenons connaissance lorsque nous lisons dans les évangiles. Nous voudrions que Christ fasse la même chose pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui, et il y en a beaucoup qui souffrent. Et notre idée à nous, la plupart du temps, notre idée humaine, c'est que Dieu doit guérir cette personne. Et quelquefois, nous avons la foi quand nous prions, nous disons « guéris cette personne ». Mais nous oublions souvent le dessein magistral que Dieu accomplit en chacun de nous. Ce que je dis souvent dans mes prières, frères et sœurs, et vous pouvez peut-être en tirer un peu de profit, je dis « Père Céleste, accomplis en cet homme ou en cette femme ou en cet enfant le dessein que tu as pour lui ou elle ». Quelquefois et souvent, la guérison n'est pas la meilleure solution. Au niveau spirituel, nous voudrions être guéris, nous voudrions avoir une vie facile, vous et moi. Nous n'aimons pas les épreuves. Il est rare de trouver quelqu'un qui dise « Oh, Éternel, apporte-moi une épreuve de plus, je n'en ai pas assez, c'est bon pour moi. » Je ne suis pas comme ça, et je pense que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas comme cela non plus. Nous n'aimons pas les épreuves. Mais en rétrospective, lorsque nous regardons ces épreuves, nous nous rendons compte que finalement, elles nous ont appris de précieuses leçons. Et la souffrance physique aussi nous apprend de précieuses leçons. Parce que voyez-vous, un jour, frères et sœurs, quand vous serez dans le royaume et que vous serez des enseignants, Christ va vous utiliser. Et vous serez les plus qualifiés parce que ceux qui souffriront ou qui auront souffert, même lors de la deuxième résurrection, nous serons très occupés aussi, nous pourrons dire à chacun de ceux qui ont souffert comme nous, « Je sais, je suis passé par là, j'ai vécu ces choses ». Et nous aurons une forte crédibilité dès le départ, parce que ils ne s'identifieront à nous que si nous pouvons dire des choses comme ça. Et évidemment, on va se dire, ah ben oui, mais maintenant, vous êtes un être, des êtres spirituels, alors pour vous, c'est facile de dire ça. Oui, mais si nous leur disons, moi, j'étais comme toi avant. Moi, je suis passé par là. Moi, j'ai connu ces épreuves. Là, nous aurons une beaucoup plus forte crédibilité. Maintenant, si tu veux, tu peux venir où je suis. Tu peux venir devenir un être spirituel comme moi. Il y a beaucoup d'espoir pour toi. Essaye d'imaginer comment ça sera encourageant pour tous ceux que nous aiderons. Quelle est l'optique que Dieu veut que nous adoptions? Les miracles physiques ne nous donnent qu'une foi temporaire, superficielle. En fait, sans foi, nous ne notons que rarement les vrais miracles. Avez-vous pensé à cela? Mais quel miracle ultime devrions-nous apprécier à sa juste valeur et rechercher plus que tout? Puissions-nous, de tous les merveilleux miracles que notre grand Dieu d'amour a accomplis et accomplit, mesurer l'importance du plus prodigieux de tous les miracles? Nous? Hébreux chapitre 2, verset 10. Hébreux chapitre 2 et le verset 10. Hébreux chapitre 2 et le verset 10. Frères et sœurs, nous sommes le miracle le plus prodigieux que Dieu puisse accomplir. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Notre Père céleste, veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Qu'il n'a pas honte d'appeler frère, conduire à la gloire beaucoup de fils. Nous sommes ses fils et ses filles, ceux que le maître potier façonne spirituellement. Paul, dans Colossiens chapitre 1, verset 26, a évoqué cet ultime miracle. Colossiens chapitre 1 et le verset 26. Il a parlé du mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à vous et à moi. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Y a-t-il un miracle plus prodigieux que celui-là? Christ en nous, c'est de cela que je veux parler. Le plus prodigieux de tous les miracles. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 50. À Corinthiens 15, 50, ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, et la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il faut que ce miracle ait lieu. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ou, comme le rend la Bible en français courant, qui, à mon avis, dans ce cas, cerne mieux le sens de ce que Paul a voulu dire, la mort tient du péché son pouvoir de tuer. Et le péché tient son pouvoir de la loi, ou de sa transgression. Je répète, la mort tient du péché son pouvoir de tuer, et le péché tient son pouvoir de la loi, ou de sa transgression. Nous utilisons rarement cette version, qui est paraphrasée, mais cette fois-ci, je pense qu'elle cerne mieux le sens de ce que Paul a voulu dire. Verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur, parce qu'un miracle prodigieux est en train de s'accomplir, celui que Dieu accomplit en nous, le plus prodigieux de tous les miracles. Faire de nous ces petites boules de chair, ces petites boules de poussière, des dieux, des êtres spirituels, en formant en nous son caractère, en nous créant à son image. C'est cela le plus prodigieux de tous les miracles, dans lequel vous et moi nous sommes impliqués. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est Paul qui parle ici, et pour lui, il ne parlait plus des membres comme de simples êtres humains, de chair, mais comme de vrais chrétiens, des frères spirituels. Ayons-nous à nouveau à l'esprit ce prodigieux miracle qui s'accomplissait et qui s'accomplit dans les prémices que nous sommes, les prémices du plan divin. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Car l'ultime miracle s'accomplissant en nous, nous devenons de plus en plus spirituels et de moins en moins charnels. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous avons tous un ministère. Nous avons tous ce ministère de la réconciliation, en quelque sorte. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Le ministère, bien sûr, mais quand on y réfléchit bien, chacun de nous, chaque chrétien est un ambassadeur pour Christ. Vous êtes tous des ambassadeurs pour Christ. Pas seulement par vos paroles, on vous juge, mais par ce que vous êtes, par ce que vous faites. Les meilleurs sermons, ce sont ceux qui sont prêchés par ce que nous faisons, par la pratique. Les meilleurs sermons, ce ne sont pas nécessairement ceux qui sont donnés en chair, mais vous êtes des sermons vivants. si vous faites la volonté de Dieu. Vous prêchez par votre attitude, par votre gentillesse, par votre esprit de service, par votre amour pour les autres êtres humains. Vous prêchez les meilleurs sermons par la pratique de ces voies que Christ nous a enseignées. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 21. Nous revenons à 1 Corinthiens 15, qui est un chapitre formidable. Ah, il y a tellement de chapitres formidables dans la Bible. 1 Corinthiens 15, 21, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme, sous-entendu Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ce miracle extraordinaire, l'ultime miracle, le miracle le plus prodigieux. Mais chacun en son rang Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, première résurrection. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Après cette deuxième résurrection, après le millénium, une fois que le dernier être humain sera rentré, qualifié par Dieu, sera rentré dans la famille divine, à ce moment-là, Dieu le Père prendra tout en main. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, Christ. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu, le Père, afin que Dieu soit tout en tous, que nous soyons tout en tous. Et cela aussi, ça sera l'apothéose de ce miracle le plus prodigieux qui puisse être accompli. Vous et moi, nous sommes de nouvelles créations en cours. Et c'est là le plus prodigieux de tous les miracles. Nous allons naître de nouveau, nous sommes à présent en gestation, nous sommes des fœtus spirituels, pour ainsi dire. Jean chapitre 3, verset 1. Jean chapitre 3 et le verset 1. Quelque chose que Nicodème ne comprenait pas. Jean chapitre 3 et le verset 1. Christ lui dit quelque chose qu'il ne saisit pas, mais que vous et moi nous devrions saisir, parce que nous appréhendons ce miracle prodigieux. Jean 3 et le verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » C'était son opinion, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et boum, là commence un concept, une idée bien difficile pour lui à comprendre, à saisir. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Pour naître de l'esprit, nous devons vaincre. C'est très clair. Nous ne pouvons pas rester tels que nous sommes. Beaucoup d'églises chrétiennes aujourd'hui vous disent, « Ah, venez à l'église tel que vous êtes. » En jeans, en mini-jupe, en tout ce que vous voudrez. Ah, tel que vous êtes, Christ vous accepte comme ça. C'est faux! Christ ne nous accepte pas tel que nous sommes et il ne pourra jamais nous accepter tel que nous sommes. La Bible, du début jusqu'à la fin, nous parle de cette transformation. Les êtres humains ont besoin de changer, de se repentir, comme il est souvent question dans le Nouveau Testament. De changer. Nous devons changer, nous ne pouvons pas rester tel que nous sommes. Sinon, ce miracle ne peut pas s'accomplir en nous. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra. Des questions de victoire sur soi-même, en grande partie. Celui qui vaincra, pas celui qui restera tel qu'il est. Verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Sois fidèle jusqu'à la mort. Verset 17, « À celui qui vaincra, à nouveau, qui vaincra, celui qui vaincra, pas n'importe qui, pas celui qui ne vaincra pas. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qu'il reçoit. » Verset 25, « Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Qu'est-ce que vous avez reçu, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu le plus grand don. Nous avons tous au moins un talent, le Saint-Esprit que nous avons reçu, vous et moi. Je parle à ceux qui sont convertis, je parle à ceux de l'Église ici. Nous avons tous au moins un talent, nous ne pouvons pas dire je n'ai pas de talent. Non, nous avons tous reçu au moins un talent extraordinaire qui permet de développer tous les autres. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit si nous sommes chrétiens. Verset 25, ce que vous avez retenu, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Retenez cette parole, retenez cette voie de vie, cette ligne de vie. Retenez tout cela, n'abandonnez pas jusqu'à ce que je vienne. Verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, à nouveau il est question de faire quelque chose, pas simplement d'accepter Christ. Il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui ne savent pas lire, ou qui ne lisent pas, ou qui ne veulent pas croire ce qui est écrit dans la parole divine. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il fera paître avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Nous ne sommes pas tout à fait certains de ce que cela signifie ici, mais Christ a été appelé aussi l'étoile du matin. Alors nous, dans un sens, nous avons reçu Christ, cette étoile du matin. Apocalypse chapitre 3, verset 5, pour continuer dans cette discussion ici. Celui qui vaincra, à nouveau, celui qui... Combien de fois c'est écrit dans ces quelques versets que nous avons lus? Celui qui vaincra, pas n'importe qui, celui qui vaincra, sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. À nouveau, celui qui vaincra. Il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Si nous sommes éprouvés, quelquefois nous sommes châtiés parce que Dieu nous aime. Dieu veut absolument que nous rentrions dans son royaume. Il veut que tous soient sauvés, c'est son espoir le plus profond. Alors quelquefois, il nous apporte des épreuves pour nous remettre sur le droit chemin. Ça ne veut pas dire que les épreuves, toujours, les épreuves que nous avons, nous les méritons, et nous souffrons parce que nous le méritons, pas toujours. Mais parfois, c'est le cas. Parfois, Dieu essaye d'attirer notre attention sur un problème dans notre vie qu'il faut absolument affronter et résoudre. Nous avons besoin à nouveau de changer pour que ce miracle le plus prodigieux qui soit puisse s'accomplir en nous. Moi je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Avons-nous ce zèle dont il est question? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le plus prodigieux de tous les miracles est celui que Dieu accomplit en nous. Gloire à lui, qu'il soit loué. Quelle merveille que ses voies sont insondables et son amour incommensurable. N'oublions pas que nous sommes l'ouvrage de ses mains, sa plus majestueuse création en cours, l'ultime miracle. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, bon courage, et je vous dis au revoir et à bientôt.